tournants qui sont là devant nous, se profilait la fin du néolibéralisme. Cette doctrine politique qui place l'économie de marché au centre et rejette l'idée d'un État-providence. Pour certains, ce néolibéralisme serait en train de vivre ses dernières heures. Pour d'autres, au contraire, il démontre toute sa force et sa résistance malgré les crises. Alors, vit-on ou non un tournant pour le néolibéralisme ? On s'est dit que ça valait la peine de prendre le temps d'un épisode pour y voir clair.
Salut tout le monde.
En général, moi, quand j'ai une question de principe, une question de philosophie politique, la première chose que je fais, c'est d'aller pousser la porte de mon collègue Bertrand Haine, qui en plus d'être un brillant éditorialiste, est aussi un très bon vulgarisateur de la philosophie politique.
Allez bien.
Et je me suis dit que ce serait pas mal pour un sujet comme celui-ci de commencer peut-être par définir au fond ce qu'on entend par néolibéralisme.
Ben, quand vous m'avez posé la question, Arnaud, j'étais un peu pris au dépourvu parce que j'avais pas nécessairement ça en tête le matin en me levant. J'ai été donc voir dans le dictionnaire de philosophie politique que j'utilise assez souvent quand une notion arrive dans l'espace public comme ça. Et j'ai cherché néolibéralisme et je n'ai pas trouvé. Donc il y a un chapitre assez large d'ailleurs sur le libéralisme, mais à la lettre N, il n'y a pas néolibéralisme, c'est pourtant un dictionnaire qui fait quand même, à mon avis, presque 2000 pages, sous la direction de Philippe Reynaud, aux presses universitaires de France, c'est un dictionnaire qui fait référence, il n'est pas dedans. Ce qui montre bien que c'est une notion en fait un peu liquide, un peu vague, un peu polymorphe, hein, qui signifie certainement différentes choses selon celui qui parle. Souvent, les adversaires du libéralisme utilisent le mot néolibéralisme comme une attaque, comme un mot péjoratif, mais il y a aussi des universitaires qui essayent de penser le néolibéralisme comme une forme de réalité particulière du libéralisme de ces 40 ou 50 dernières années.
Bon, et vous, alors Bertrand Haine, si vous deviez qualifier ce qu'on appelle en général ou ce qu'on considère comme le néolibéralisme d'un point de vue et politique et économique, puisqu'on sent bien que les deux notions sont liées là-dedans, vous diriez quoi ?
Ben donc, personne ne s'en réclame vraiment du néolibéralisme. Personne ne se dit « je suis fièrement néolibéral ». Hein, ça, c'est quand même une caractéristique particulière de ce courant. Moi, je crois qu'on peut trouver une unité historique, hein, quand on regarde l'histoire, de formes de libéralisme qui se sont mis plutôt en réaction ou qui ont essayé de freiner la progression de l'État qui a été continue après la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec les 30 Glorieuses, on a cette fameuse création de richesse des Trente Glorieuses, mais aussi la progression de l'État, avec des programmes sociaux, notamment la sécurité sociale, mais des programmes de santé, ce qui fait que petit à petit, eh bien les États, un peu partout en Occident, aux États-Unis, on l'oublie souvent, mais nous qui sommes Européens, mais même aux États-Unis, l'État a grossi, grossi, grossi. Et pour toute une série de penseurs, parce que c'est d'abord parti de là, de penseurs, de philosophes et d'économistes, avant d'arriver dans le champ politique, ils ont commencé à se demander si cette État qui grossit n'allait pas finalement arriver à un État totalitaire, voire ou un État socialiste, qui chez beaucoup de penseurs était la même chose, totalitaire ou socialiste, c'est-à-dire un État obèse qui ne laisse plus la possibilité de l'initiative individuelle, du marché, des droits. Et donc ils craignaient l'obésité de l'État et ont donc développé une forme de contre-pensée. Contre ce qui était à l'époque la pensée dominante, celle de Keynes, hein, un économiste célèbre anglais qui prévoyait quelque part la redistribution des richesses en démocratie, qu'il théorisait. Et donc eux ont théorisé l'inverse. Ils ont plutôt théorisé l'idée de sortir du keynésianisme et de l'État redistributeur, de l'État-providence, pour revitaliser, retrouver enfin un marché plus libre. Ça, c'est un peu l'unité, si vous voulez, qu'on peut trouver dans le néolibéralisme. C'est donc un mouvement, et je crois que c'est vraiment important, de réaction à cet État-providence qui s'est petit à petit créé au cours des Trente Glorieuses.
Donc il y a l'idée, quelque part, dans le néolibéralisme, qu'il faut revenir à une forme d'essence du libéralisme qui se serait perdue justement pendant cette période des Trente Glorieuses et de la progression d'un État de plus en plus présent, de plus en plus important.
Oui, et alors c'est là que le néolibéralisme se différencie peut-être du libéralisme. Alors il y a deux écoles. Il y en a qui disent que le néolibéralisme, au fond, c'est revenir aux sources du libéralisme. Ni plus ni moins. Moi, je pense quand même qu'il y a une différence qu'on peut pointer. C'est que le néolibéralisme place le marché beaucoup plus haut dans la hiérarchie des valeurs que le libéralisme. Dans le libéralisme classique, ce qui est important, c'est l'individu. C'est ça qui est premier. La liberté de l'individu. Et donc, le libéralisme classique, celui d'Adam Smith, de Locke, notamment des penseurs anglais, mais également de Renan en France, des penseurs français, est un libéralisme qui va s'opposer à l'État. L'État qui oppresse, bon, c'est l'État avant la Révolution française, hein, dont on parle de cet État-là, ou même pendant la Révolution française, celui d'un État qui est quand même un État de la terreur, un État qui peut condamner arbitrairement les individus, etc. Donc il pense les droits des individus contre l'État. Et parmi ces droits, il y a la liberté d'entreprendre. La liberté, naturellement, de s'associer, de fonder une entreprise. Vous savez qu'avant la Révolution française, si on voulait fonder une entreprise, il fallait l'autorisation des corporations, qui pouvaient interdire, par exemple, des découvertes, pouvaient stopper, par exemple, une manufacture qui se basait sur une invention qu'on jugeait pas bonne pour le marché, eh bien, elle était interdite. On ne pouvait pas, naturellement, laisser le marché faire. C'était les corporations qui faisaient le marché. Et donc, ces libéraux-là pensent le marché, mais comme conséquence de la liberté humaine. Et ce qui est important dans le néolibéralisme, c'est qu'on voit l'inverse. C'est que le marché devient la première chose qui va créer de la liberté humaine. Ce n'est pas une conséquence, c'est l'origine de la liberté humaine. Et donc, le marché doit s'imposer, et doit même s'imposer face à la démocratie. Ce qui explique que des penseurs, par exemple, comme Hayek, Friedrich Hayek, un des grands penseurs du néolibéralisme, ait considéré à un moment donné que imposer le marché, par exemple, au Chili de Pinochet, était favorable à l'émancipation de l'individu, favorable à la liberté humaine en général, plus que le socialisme d'Allende. Alors que les libéraux classiques de ce moment-là, ou même d'avant, comme Raymond Aron, etc., auraient refusé qu'on supprime la démocratie, qu'on supprime l'égalité des droits pour le marché. Eh bien, pour certains néolibéraux, pas tous, hein, parce qu'il y a débat là-dessus, mais on comprend en tout cas que le marché est tellement naturel, est tellement à la base de toute l'activité humaine pour eux, qu'il peut s'imposer à la démocratie. En fait, la question des droits et de l'égalité, qui est très importante pour les premiers libéraux, devient secondaire pour certains penseurs néolibéraux.
Ok, voilà donc pour le principe. Le marché au centre, la libre concurrence comme meilleur moyen de garantir la liberté des individus. Mais j'ai envie de creuser encore et de faire un peu d'histoire. Pour ça, j'ai pris rendez-vous avec un passionnant historien de l'économie qui s'appelle Kenneth Bertrams et qui enseigne à l'ULB, à la Solvay Brussels School.
Ravi de vous rencontrer. C'est bien passé, ça a été.
Oui, pas de souci.
Et quand je lui demande ce que lui évoque le néolibéralisme en tant qu'historien,
la première évidemment signification pour moi, elle me renvoie à une image, à l'image du couple Ronald Reagan-Margaret Thatcher dans les années 80, et l'idée finalement que pour que les économies occidentales, bon, américaines, anglaises, fonctionnent bien, il faut le moins d'État possible, il faut faire en sorte que le marché puisse s'exprimer, tenter d'aller dans le sens d'une dérégulation, être très très strict aussi sur les finances publiques, et enfin, ne pas faire de concessions du tout aux dépenses sociales et faire en sorte évidemment de garder cet agenda de manière très très claire.
In this present crisis, government is not the solution to our problem.
I believe you won't keep political freedom unless you also have economic freedom.
Government is the problem.
Ça, c'est la première image que j'ai, mais elle entre directement en contradiction avec des lectures que j'ai faites depuis quelques années et qui montrent qu'au contraire, le néolibéralisme a une autre généalogie. C'est-à-dire qu'on creuse là plus dans l'entre-deux-guerres et même au-delà dans certains cas, et que à rebours de l'idée d'une économie qui fonctionnerait avec le moins d'État possible, ça fonctionnerait plutôt avec un État présent, mais qui mettrait l'accent sur un cadre légal notamment, qui puisse vraiment faciliter les échanges et le marché. Donc ça signifie qu'un État doit être très présent quand même, et un État aux commandes, pour justement faire en sorte que le marché puisse s'exprimer et sur base non seulement nationale mais aussi internationale.
On touche là à un élément important qui permet de mieux saisir encore l'esprit de la doctrine politique portée par les néolibéraux. Certes, ils croient à la valeur première du marché, de la libre concurrence comme pierre angulaire d'une société libérale. Mais les premiers penseurs du néolibéralisme ne se disent pas pour autant qu'il faut effacer l'État. Et pour comprendre comment ils en arrivent à cette vision, cela vaut la peine de rembobiner un peu l'histoire et de revenir en 1947 à la création de la Société du Mont Pèlerin, une société intellectuelle fondée par l'économiste autrichien Friedrich Hayek dans un petit village situé au bord du lac Léman, en Suisse. Là, une série d'intellectuels se retrouvent pour théoriser ensemble l'idée d'un nouveau libéralisme. Certains d'entre eux s'étaient d'ailleurs déjà rassemblés avant-guerre lors d'un colloque à Paris, au départ d'une idée simple, promouvoir une nouvelle forme de libéralisme face au fascisme, qui vient de montrer l'étendue de son horreur, face au communisme et face à l'interventionnisme étatique. Il place au centre du jeu, comme on l'a dit, l'économie de marché et l'idée d'une société ouverte à l'échelle du monde. Mais, et c'est important à bien comprendre, ils font aussi l'analyse que laisser le marché totalement libre peut générer des problèmes qui justement vont perturber ce qu'ils considèrent être la loi naturelle de ce marché. Exemple, si un acteur devient tellement puissant qu'il acquiert une situation de monopole, la libre concurrence ne peut plus jouer. Raison pour laquelle il faut un État qui vienne en quelque sorte protéger le marché.
En gros, l'idée de ces économistes est d'éviter à tout prix que la politique l'emporte sur l'économique. Et donc ils estiment que tout doit être fait pour qu'un cadre légal soit mis en place et que ce cadre légal soit suffisamment fort et stable pour empêcher les turbulences politiques et même les interférences, presque même du marché. Parce que contrairement à l'idée reçue aussi, ils ne veulent pas revenir au libéralisme du 19e siècle. C'est pas leur idée non plus, parce qu'ils estiment aussi qu'il y a eu des dégâts de ce côté-là. Non, ce qu'ils veulent, c'est construire un cadre légal, un cadre institutionnel et légal au niveau international suffisamment fort pour que finalement la politique puisse être présente, certes, mais là surtout pour protéger ce cadre-là.
Un État au service du marché, donc, m'explique Kenneth Bertrams, fixant des règles que les néolibéraux estiment nécessaires pour que la libre concurrence puisse jouer à plein. Un État aussi devant intervenir comme pompier en cas de crise pour protéger le marché.
L'État doit vraiment bien comprendre qu'il doit se mettre au service des marchés d'une part et doit tout faire qu'en cas de crise, eh bien, on colmate ces crises pour préserver les acquis et que finalement ils ont cette idée, encore une fois, que toute perturbation économique peut être colmatée, peut être corrigée par le biais de lois, par le biais de toute une série de régulations. Mais une fois que les choses sont conservé, une fois les choses sont réparées, il faut que ça continue de sa même logique.
Ça, c'est donc l'idée théorique portée par ces intellectuels, autrichiens, américains, français aussi, qui, même s'ils ne se décrivent pas spécifiquement comme tels, sont les pères du néolibéralisme. On est alors, je vous le disais, juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ces idées voient le jour dans des cercles de pensée, mais politiquement, dans la plupart des États, c'est un tout autre projet qui va voir le jour, celui de l'État-providence. Un État doté de larges compétences sociales, économiques, réglementaires, la mise en place d'assurances chômage, d'assurances maladie. Ce sont les Trente Glorieuses. La reconstruction d'après-guerre rime avec une forte croissance économique, un essor industriel dopé par une énergie très peu chère, une croissance démographique aussi, soutenue par une amélioration de la qualité de vie, de la santé. Et les fruits de la croissance servent à financer un État redistributeur, actif dans des domaines toujours plus vastes. On parle aussi à cette époque du modèle économique du Fordisme, du nom de l'industriel Henry Ford. Les salaires augmentent en étant indexés sur les gains de productivité, de quoi augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs qui, en retour, consomment plus. Ça, c'est ce qui va se jouer principalement dans les pays occidentaux jusqu'au milieu des années 70. Mais pourquoi donc alors les idées néolibérales, qui durant toutes ces années vont surtout rester cantonnées à des cercles intellectuels, vont-elles revenir politiquement en force au début des années 80? Voici la réponse de Kenneth Bertrams.
Alors il y a deux choses, peut-être un élément qu'on a tendance à exagérer souvent, ce sont évidemment les chocs pétroliers, les premières crises énergétiques, et qui montre quelque part que le modèle d'une économie avec une croissance à deux chiffres qui serait portée par une énergie à bas coût ne fonctionnerait pas. Bon, alors on met quoi? On met l'accent, et on a tendance aussi à l'oublier, à ce moment-là, le mot-clé dans les années 70 et 80, c'est l'innovation. On met vraiment l'accent sur l'innovation, ça veut dire les pays occidentaux et industrialisés doivent vraiment tout faire pour trouver eux-mêmes les ferments d'un développement économique qui puisse être porté. On parle de plus en plus du monde de la recherche, du développement et toutes ces choses-là. On l'oublie un peu parce qu'on entend toujours cette idée d'économie de la connaissance. Et en fait, on se rend compte que la genèse de cet encouragement, cette volonté de rhétorique de l'innovation, elle vient là. Elle vient dans les années 70 où on met vraiment l'accent dans les groupes patronaux sur l'innovation. L'autre chose, et ça on en parle un peu moins, c'est le fait que les politiques et les économistes se rendent compte qu'il y a la continuité aussi de phénomènes de contestation. Des grèves de masse, de plus en plus nombreuses, que les hausses de salaire ne parviennent pas à finalement à limiter. Et donc on s'est dit, il faut peut-être trouver un autre modèle où on met l'accent, non pas sur... c'est une crise du fordisme, le modèle qui consistait à dire, le cercle vertueux, que la consommation va être portée par une augmentation des salaires, elle-même portée par l'hausse de la productivité, eh bien, est en train de se gripper. Il faut trouver autre chose, et cette autre chose, c'est peut-être se dire, eh bien, le fait d'augmenter les dépenses publiques, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc, il faut aller vers un durcissement des relations, on va dire, sociales. On va vers une limitation des finances publiques. Et les premiers pays qui sont en train, en effet, de montrer leurs dents, si je puis dire, à ce niveau-là, c'est l'Angleterre, au début des années 80, c'est les États-Unis, avec l'idée, notamment, de tout faire pour faire une séparation forte de cette dynamique fordiste et de dire non, ça ne va plus fonctionner ce modèle-là, et on va plutôt mettre l'accent sur quelques secteurs qui continueraient à être alimentés fortement, et pas forcément les secteurs les plus sociaux, on va dire, et les secteurs moins innovants, on va faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes mourir de leur propre mort.
Voilà donc les raisons d'un changement progressif de modèle économique et étatique, un tournant qui va s'opérer et installer une nouvelle donne encore bien vivante aujourd'hui.
J'ai envie de dire que ce qui apparaît de manière plus décisive, c'est la conversion totale et même sur un plan de maturité de l'État au capitalisme. Ça peut paraître évident, mais c'est pas évident du tout. Quand on regarde encore une fois les hésitations d'après Seconde Guerre mondiale entre les différents modèles qui pouvaient exister et autres, là on sent très très bien dans les années 80 que pour Reagan comme pour Thatcher, il n'y a plus de double modèle qui puisse exister, socialisme versus capitalisme. Le capitalisme a gagné. Et maintenant, l'État peut s'affranchir de cette menace qu'il essayait de sortir pour un petit peu mobiliser les gens. Et donc, il faut trouver sa propre voie. Et la propre voie, c'est quoi? C'est pas d'abord un État moins présent. Donc, j'insiste là-dessus, c'est un État présent, mais dans le sens du capitalisme. C'est-à-dire qu'il intervient pour notamment détricoter toute une série de mécanismes qui avaient été mis en place. Je prends un exemple très concret, c'est la mise en place dans les années 30 de la loi Douglas-Steel-Hise aux États-Unis, qui est une loi qui va finalement séparer les entités bancaires commerciales des entités bancaires d'épargne, et qui avait été mise en place par Roosevelt. Eh bien, on voit dès les années 80 que Ronald Reagan va tout faire pour essayer de supprimer cette législation. Et qui va le faire? C'est Clinton. C'est juste après lui Clinton. Donc vous voyez ici ce qui est intéressant, c'est une forme aussi de convergence de point de vue, qu'on soit républicain, démocrate, pour aller dans un sens qui est quoi? Un sens où certains peuvent dire une dérégulation, mais ce n'est pas une dérégulation. C'est vraiment une re-régulation dans le sens d'un capitalisme qui ne puisse plus être contesté et contestable.
D'ailleurs, cette conversion-là, elle va bien vite déborder les frontières des États-Unis et de la Grande-Bretagne, et elle ne va pas se limiter à des gouvernements conservateurs.
Il y a un exemple qui, selon moi, est un tournant majeur dans la gauche. C'est ce qui se passe en 1982-83, juste après l'élection de François Mitterrand, évidemment. C'est le fameux tournant de la rigueur.
Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger.
Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un an à peine après l'élection de François Mitterrand, on se rend compte que les projets de nationalisation, les projets qui avaient pour ambition de faire de la France une économie à la fois, finalement, en croissance, mais socialiste, ne fonctionnent pas. À la première crise venue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, on remet l'accent sur quoi? Les finances publiques. le fait qu'il faut quand même veiller à ne pas laisser filer toute une série de dépenses. Ça veut dire quoi? Que finalement, le logiciel néolibéral, si on veut bien accepter ce vocable-là, l'emporte aussi du côté de la social-démocratie.
J'ai encore une question à poser à l'historien de l'économie Kenneth Bertrams. Pense-t-il, quand il entend aujourd'hui certains dirigeants, même libéraux, appeler à beaucoup plus de régulation, à ne plus laisser par exemple l'énergie aux seules lois du marché, pense-t-il que le néolibéralisme est en train d'être battu en brèche, de toucher tout doucement à sa fin?
Moi, je ne vois pas vraiment de rupture, en fait. Je vois des déviations, je vois des éléments de contestation, mais je ne vois pas un énorme changement de paradigme à l'heure actuelle. Aussi bien les détracteurs que les turiféraires, finalement, du libéralisme s'entendent sur du changement, de la réforme, des transformations. Et en fait, le capitalisme absorbe volontiers, à petits coups, par rouleau compresseur, toute forme de critique, de tentative d'opposition pour aller de l'avant. En 2008, on avait prévu la mort totale du capitalisme dit financier, qu'on dit souvent être associé d'abord d'ailleurs au néolibéralisme. Il y a eu des changements, mais qui n'ont pas remis en question les principes même du néolibéralisme. 2020, on disait que le Covid allait quand même bouleverser les attitudes, les pratiques et autres. On a assisté quand même, depuis 2022, à une sorte de montée en flèche de cette pratique consumériste et autres, qui n'a pas été du tout dans la lignée de certaines prédictions. Donc moi, je suis, encore une fois, je peux paraître une espèce de personne un petit peu sceptique, j'espère pas, mais je veux juste montrer que ça fait 40 ans qu'on nous annonce la fin du néolibéralisme ou la fin de ce système qui consiste à dire que l'État veille au grain d'un marché toujours plus puissant et autres.